4 au 7 décembre, les 40 heures de Radio Panique sur 105.4, un programme exceptionnel.
Noble Belgique, Merdeau chéri.
Vendredi 4 décembre, dimanche 6 et lundi 7 décembre, à partir de 20h, les petits-enfants du rock, l'alternative au top 50. Au rayon et conjonctivite, les radios dans le paysage audiovisuel belge francophone, le samedi 5 décembre de 10h à 19h. Bruxelles métissée, entre la cohabitation et le mixage culturel. Samedi soir à partir de 20h, repas musical interculturel à la salle du Douche, 25 rue de la Commune à 1030 Bruxelles. Et puis nos émissions sur Bruxelles métissée, entre la cohabitation et le mixage culturel, dimanche 6 décembre de 12 à 20h. Et enfin, la pratique de l'information, lundi 7 décembre, à partir de 14h jusqu'à 20h, l'autre revue de presse.
Légende panique.
Chapitre 16. La programmation de Radio Panique de 1987 à 1994.
Vincent Story, c'est quoi ?
De nouveaux animateurs débarquent. Contrairement aux prévisions, le volume des émissions en direct n'augmente guère au fil des années. Jusqu'en 1998, il oscille entre 45 et 60 heures environ. Aujourd'hui, en 2001, il dépasse les 100 heures.
Vincent Story, c'est quoi ?
Jardin public, le magazine d'information de Radio Panique.
L'émission généraliste quotidienne d'information faite maison, Jardin public, première version. Faute de ressources humaines, sa fréquence devient hebdomadaire dès 1990. Un digest mensuel est monté. Cette émission est progressivement remplacée par la diffusion de magazines reçus via la Banque européenne des programmes, en provenance surtout de Radio Zinzine en France. Les quelques forces encore préoccupées par l'information généraliste se concentrent ponctuellement sur quelques émissions spéciales lors d'événements importants.
Édition mensuelle numéro 4, juin-juillet 89. Numéro spécial, Bruxelles, radioscopie d'une nouvelle région.
Dimanche 17 décembre 89, l'heure de vérité à Antenne 2 était celle de Hassan II, roi du Maroc. Les déclarations de Hassan II ont eu un retentissement certain, autant en France qu'en Belgique. Jardin public a invité trois personnes qui ont réagi à ces déclarations. Ahmed Oubari, animateur de l'émission Saoud al-Mouachir, Michel Latsou d'Amnesty International et Khalil Zegwendi de l'émission Babord.
Cette réaction donc, à laquelle on assiste, le foulard, la barbe, le retour aux valeurs, l'islam, etc., pour moi, c'est une réaction au climat raciste que vit le Marocain ici, bon, raciste, que ce soit au point de vue purement raciste ou anticulturel, etc.
On peut parler de l'extrême droite en France comme de l'extrême droite en Belgique, de la même manière qu'on peut parler, par exemple, de l'extrême droite islamiste ici en Belgique ou en France, qui n'a pas intérêt aussi à ce que les immigrés s'intègrent de manière positive, à ce qu'il y ait un dialogue, à ce qu'il y ait des ouvertures, à ce qu'il y ait un échange interculturel, etc.
Jardin public mensuel numéro 15. Émission spéciale, des prometteurs de beaux jours.
La société de consommation a ses chantres, les prometteurs de beaux jours. N'attendez plus pour jouir des biens que vous désirez, le monde vous appartient. Il vous suffit d'acheter à crédit.
Émission spéciale de Jardin public, guerre dans le golfe Persique. Les États-Unis et leurs alliés sont partis à l'offensive dans la nuit de mercredi 16 à jeudi 17 janvier 1991. Un jour auparavant, Radio Panique avait invité une série de personnes ressources et de représentants de comités pour la paix et de partis politiques à s'exprimer et à débattre des problèmes et des enjeux en cause.
Quel est l'enjeu du Koweït pour les Américains?
Il y a, à mon sens, et en dehors du débat sur le droit international, sur lequel on pourrait peut-être revenir après, il y a à mon sens deux enjeux importants et qui sont de deux ordres fort différents. Le premier enjeu qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est le pétrole. Le problème de l'approvisionnement en pétrole ne se pose pas de manière criante pour les États-Unis eux-mêmes, parce qu'ils ont leurs propres réserves et parce qu'ils ont un approvisionnement assez diversifié. Mais à plus long terme, on sait que dans une vingtaine d'années, l'essentiel des réserves mondiales seront situées en Arabie Saoudite, en Irak et au Koweït. Ce qui veut dire que la région va devenir extrêmement importante de ce point de vue-là. Les réserves des États-Unis seront épuisées à ce moment-là, les réserves de l'URSS probablement aussi, et les autres pays en arriveront déjà à leur dernière goutte. Donc on va assister à une focalisation de l'importance de cette région au niveau du pétrole. Donc il y a là un premier problème, et on sait que Saddam Hussein le sait. Il sait évidemment que c'est une arme importante et que c'est l'arme dont disposent les Arabes pour faire passer une série de leurs points de vue. L'autre aspect dans l'enjeu que représente le Koweït pour les Américains, c'est quelque chose de beaucoup plus global encore à l'échelle de la planète. C'est la nécessité pour les Américains de faire comprendre à l'ensemble du monde qu'ils sont le gendarme du monde. Ce qui est clair dès le début d'un conflit, c'est qu'ils laisseraient une trace indélébile dans les têtes et dans les cœurs des gens. Et qu'il y aurait un ressentiment énorme dans les populations arabes vis-à-vis de l'Occident. Et cela, nous le payerions un jour ou l'autre.
Émission spéciale du magazine Jardin public sur Radio Panique. La Yougoslavie en éclat.
Pourquoi cette émission sur la Yougoslavie aujourd'hui? Après des semaines d'incertitude, d'hésitation, l'ONU a décidé d'envoyer les casques bleus, opération la plus importante depuis 30 ans. Un tournant dans un conflit vieux de 8 mois, si les chances de voir la paix se maintenir augmentent, tout n'est pas réglé pour autant. Le plus difficile reste à faire, règlement du conflit serbo-croate et mesures préventives en vue d'éviter l'embrasement de nouveaux foyers de tension plus au sud dans les républiques de Bosnie-Herzégovine qui vont bientôt d'ailleurs élire et choisir peut-être leur régime en tout cas, et de Macédoine, sans parler des problèmes du Kosovo qui en fait étaient des problèmes qui datent depuis plus longtemps que les problèmes serbo-croates, en tout cas qui ont éclaté avant.
Émission spéciale du magazine Jardin public,
Élection du 22 mars 1992 en Albanie. Les Albanais aujourd'hui et demain.
Allô ?
Oui, 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 tu es sur antenne maintenant.
Bon, voilà.
Donc je rappelle que Skepi Skapi nous téléphone directement de Tirana et on va lui demander évidemment de nous dire...
C'est une première quand même, hein.
Moi, je vous dirais tout simplement que c'est une loi électorale très compliquée. Elle est en réalité unique au monde. Elle est tellement compliquée que des spécialistes en la matière qui sont venus sur place, à savoir un professeur portugais qui avait notamment élaboré la loi électorale au Nicaragua et au Salvador, a mis un temps fou à comprendre la loi électorale albanaise, ce qui montre bien qu'elle est très complexe. Elle est complexe parce que c'est un système mixte qui est à la fois un système majoritaire et un système proportionnel. Là, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Je crois que ça ne sert à rien d'entrer dans des détails techniques, parce que plus on essaye de comprendre, moins on comprend, et je vous avouerai que chaque fois qu'on s'imagine qu'on a compris, on se rend compte qu'en réalité, il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas compris.
Mon sentiment personnel, c'est que vraiment, pour m'être retrempé dans cette ambiance, il y a une attente extraordinaire de la population, et qu'aujourd'hui, évidemment, dans l'euphorie de la victoire, tout semble de nouveau possible pour la population qui avait attendu tellement longtemps.
Avec Jardin Public, on a fait deux émissions. On a fait une émission, c'était sur le Kosovo, et c'était Marcel qui animait, et on avait des invités au studio. Et je me souviens même que même la télévision BRT avait participé, et c'était une très bonne émission. On n'a jamais eu autant des auditeurs qui sont intervenus par téléphone. En plus, c'était un vendredi après-midi, donc vers 5h de l'après-midi, et on avait une audience grandiose. Et la deuxième émission en République qu'on a fait ensemble, c'était les élections albanaises de 1991, donc les premières élections dites libres en Albanie. On l'avait fait. Ce sont les seules deux émissions qui étaient des émissions vraiment à succès. Et ça n'a jamais, on n'a jamais continué par après, je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'il y a eu, manque de volonté de part et d'autre. Hein. Je crois que Jardin Public à ce moment-là était essentiellement dirigé par Marcel et Philippe. Et puis, eux, ils ont commencé à faire autre chose de plus intéressant. Et Jardin Public a perdu un petit peu sa richesse qu'elle avait au départ.
Radio Panique vous présente le Tibet au pays de Tintin.
Le Tibet, pour tous les spécialistes en géostratégie, en géopolitique, le Tibet est par excellence la zone la plus sensible du monde. En fait, Mackinder, qui est le père de la géopolitique moderne, disait que celui qui posséderait le cœur des empires, le Tibet, dominerait le monde. Et ça, les Chinois l'ont très bien compris. Et ils ont installé, d'ailleurs, de ce fait, des tas de bases de missiles, y compris intercontinentaux, sur le sol tibétain.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Panique sur le 105.4 et cette émission s'appelle Jardin Public. C'est une émission d'information consacrée ce mois-ci aux problèmes israélo-palestiniens. Si vous voulez intervenir dans le débat, le numéro de Radio Panique, c'est le 734-04-50.
Je pense qu'un processus de paix réel qui se ferait avec l'OLP et donc avec la reconnaissance du peuple palestinien dans son ensemble sera à la fois très difficile, très douloureux pour les Israéliens, mais c'est une nécessité absolue, même si ça a l'air d'être plus difficile que simplement de tracer une frontière et de dire maintenant c'est la paix, c'est-à-dire foutez-nous la paix aussi, même si cela paraît plus difficile, c'est aussi plus réaliste. Plus réaliste parce que cela signifie l'intégration des Israéliens, l'intégration des Juifs, et le sionisme est une idéologie anti-intégration, l'intégration des Juifs dans le monde où ils vivent, comme cela se fait dans nos pays où les Juifs sont intégrés, cela pourrait se faire, se refaire dans le monde arabe qui a connu lui aussi d'autres situations, des situations pacifiques, des situations de coexistence réelle et d'échange réel entre les peuples qui y vivent. Donc là, on a un enjeu très difficile et ce n'est pas dans les années qui viennent, mais peut-être dans les décennies qui viennent que les choses vont pouvoir changer. Mais je pense qu'on peut faire confiance en cette jeunesse israélienne qui est en train de se détacher de l'idéologie du grand Israël et qui revendique la démocratie, et que l'on peut faire confiance aussi dans le peuple palestinien qui, et on l'a entendu à travers Shoki Armali, mais on peut l'entendre aussi à travers les représentants des territoires occupés et même à travers la parole de n'importe quel habitant ou de la majorité des habitants des territoires occupés, qui est ce peu de haine, ce relativement peu de haine par rapport à la souffrance subie. Ils attendent la paix, ils la souhaitent réellement. Et ce sont des bons partenaires.
Vincent Story, c'est quoi ?
Une grille horaire. C'est déjà la tendance à placer les émissions des communautés étrangères le week-end et les émissions musicales les soirs de la semaine.
Il était une fois... Les gens de panique.
Illyria.
Illyria, c'est un centre culturel de la jeunesse albanaise. À son sein, il y avait des danseurs. Il y a toujours des musiciens de musique populaire.
Il y a une bibliothèque aussi.
Folklorique. On a l'intention d'ouvrir une... Enfin, on a déjà les livres, mais on n'a pas les moyens structurels de commencer à fonctionner en tant que bibliothèque. On organise quelques activités sportives et culturelles en dehors de la radio, quoi. Voilà c'est quoi Illyria, en raccourci. Et bon, comme on n'a pas de permanent, on fonctionne tant bien que mal, quoi. Motivation et objectif, d'abord essayer de réaliser des émissions tout à fait correctes, au niveau technique convenable, avec un fond et une forme tout à fait respectables, sans oublier qu'on est des amateurs et qu'on n'a pas à consacrer des dizaines d'heures. Déjà qu'on s'investit 5 heures semaine, s'il faut encore compter des préparations, ça fait beaucoup d'heures. Et qu'on a quand même encore une vie autre que celle de notre émission, je crois. On cible principalement les Albanais, sans refouler les francophones ou les néerlandophones. Ni d'autres langues d'ailleurs. On a des auditeurs qui sont turcs, qui nous appellent en français, qui nous remercient de passer certains trucs ou des discours qu'on tient. Mais je crois que on peut parler de public cible. S'il y a un public cible, c'est les Albanais, quoi. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que les jeunes se réunissent souvent en 4, 5, 6 jeunes dans une maison ou l'autre. Et à ce moment-là, ils téléphonent et on rigole ensemble, quoi. Et ça, je suis un petit peu étonné. Dans le bon sens, hein, pas...
Vincent Story, c'est quoi ?
C'est l'émergence d'un nouveau type d'animateurs qui n'ont pas connu les années prodigieuses de la RTB, qui n'étaient pas nés ou à peine nés en 1968. Seuls certains d'entre eux sont capables de s'affranchir du réflexe de mimétisme des modes dominants d'animation radiophonique.
Ils sont chouchoutés par le permanent.
En inventant leur propre grammaire sonore, c'est comme s'ils réinventaient en accéléré toute l'histoire de la radio de création.
Et que personne ne l'oublie.
Petrov monte sur son cheval et adresse à la foule un discours dans lequel il prédit ce qui se passera si l'on construit un gratte-ciel américain à l'endroit où se trouve le jardin public.